quand même se demander pourquoi, hein, les gens oublient toujours de se poser la question pourquoi.
Pour marquer, ça peut être une qualité comme ça peut être un défaut. Ce qu'il y a de bien avec les opinions tranchées, c'est que ça relance le débat. En soi, vous êtes une sorte de provocateur.
Question de point de vue, l'émission qui traite de la contre-culture, des alternatives, des transformations sociétales. Pas sur Radio Pulse le lundi soir entre 20h et 21h.
La télévision nous a appris à croire qu'un jour on serait tous des millionnaires, des dieux du cinéma ou des rockstars. Mais c'est faux. Nous apprenons lentement cette vérité. On en a vraiment, vraiment plein de cul.
Bienvenue sur Question Point de Vue, l'émission qui parle de contre-culture, de l'alternative citoyenne et de toutes ces petites choses du quotidien que l'on voit ou que l'on ne voit pas. Et nous sommes sur notre thématique spéciale du mois dédiée à Fight Club et à tous les sujets qui entourent l'œuvre de façon générale, qu'ils soient politiques, qu'ils soient culturels, qu'ils soient aussi sur la vision, entre guillemets, spirituelle que peut avoir l'œuvre générale qui a été écrite par Chuck Palahniuk. Et donc, pour cette émission spéciale, ce mois-ci, nous ne ferons pas de débat. Nous avons décidé justement de faire une émission un peu plus libre où on va vous passer des extraits, des passages des œuvres de Chuck Palahniuk afin justement que vous puissiez savourer un peu au-delà du film qui est très connu par la plupart des gens. Qu'est-ce que dit précisément l'œuvre de Fight Club, son livre, comment il a été écrit et pour vous donner aussi envie de pourquoi pas bah, le lire vous-même quoi. Et donc pour ce faire, on a décidé de vous lire deux passages, deux extraits. Donc le premier va être celui de Monstre Invisible, qui était la première œuvre écrite de Chuck Palahniuk, qui devait inspirer Fight Club, et comme on l'avait déjà expliqué dans les dernières émissions, en fait les éditeurs n'avaient pas voulu justement éditer le premier passage, le premier roman de Chuck Palahniuk, parce qu'ils considéraient qu'il allait pas se vendre, que c'était pas suffisamment commercial, et c'est ce qui a donné l'idée à Chuck Palahniuk du coup d'écrire Fight Club. Plus attendre, nous allons commencer du coup cette lecture par la lecture de Monstre Invisible de Chuck Palahniuk, de l'édition Folio Policier, qui a été édité, je vais vous lire ça tout de suite et maintenant, en 1999, donc pile poil le jour de la sortie du film de Fight Club, enfin de l'année de la sortie du film de Fight Club. Et on va commencer du coup par les deux premiers chapitres de Monstre Invisible, étant donné que c'est une œuvre un peu moins connue. Je me suis dit que j'allais pas prendre des extraits en fait qui révélaient un peu l'intrigue, même si elles ressemblent très sensiblement à celle de Fight Club, mais juste vous mettre un peu dans le bain de l'histoire par les deux premiers chapitres du livre. Chapitre 1. Là où vous êtes censé vous trouver, c'est au beau milieu de quelques grandes réceptions de la maison de mariage de West Isles, dans un vaste manoir résidentiel, avec dispositions florales et champignons farcis à travers toute la maison. On appelle ça plan de situation de décor, l'emplacement de chacun qui est vivant et qui est mort. Et c'est le grand moment de la réception du mariage d'Evie Cottrell. Evie est debout, à mi-chemin de l'énorme escalier dans le hall d'entrée du manoir, nue à l'intérieur de ce qui reste de sa robe de mariée, le fusil toujours à la main. Moi, je suis debout en bas des escaliers, mais il n'y a que mon corps qui fasse acte de présence. Mon esprit est je ne sais où. Personne n'est encore totalement tout à fait mort, mais disons que les secondes s'égrènent. Ça risque de ne pas durer. Non que quiconque dans le grand drame qui se joue soit d'ailleurs vraiment complètement vivant non plus. Avoir l'allure d'Evry, on peut faire remonter son look à quelques publicités télévisées. Pour shampoing d'origine naturelle, sauf qu'en cet instant, la robe de mariée d'Evie a complètement brûlé et ne reste d'elle que les cerceaux métalliques en orbite autour de ses branches et rien de plus que des petits squelettes en fil de fer de toutes les fleurs en soie qu'elle avait dans les cheveux. Et la chevelure blonde d'Evie, son énorme choucroute, toute crêpée, coiffée en arrière, arc-en-ciel nuancé de toutes les variantes de blond, possible gonflée et tenue à la laque, eh bien, la chevelure d'Evie, elle aussi a brûlé. L'autre personnage présent en ce lieu est Brandy Alexander, qui s'étale, blessé par un coup de fusil, en bas des escaliers, en train de saigner à mort. Ce que je me dis à moi-même, c'est que le jet de rouge qui pulse au sorti de l'orifice de la balle reçue par Brandy ressemble moins à du sang qu'il n'est un outil sociopolitique. C'est l'idée qu'on est cloné à partir de toutes ces publicités pour shampoing, eh bien, ça vaut pour moi et pour Brandy Alexander aussi. Abattre quelqu'un d'un coup de fusil dans cette pièce ne serait l'équivalent moral de tuer une voiture, un aspirateur, une poupée Barbie. Effacer un disque d'ordinateur, bouler un livre. Probablement que ça vaut pour le meurtre de n'importe qui sur Terre, nous sommes tous tels des produits. Brandy Alexander, la reine fleur à longue tige, aussi mode et moussue que de la latte, la diva suprême des filles spectacle haut de gamme incontournable, Brandy est en train de se vider de ses intérieurs par un orifice de balle dans sa veste de tailleur par ailleurs absolument stupéfiante. Un tailleur blanc, copie d'un modèle de Bob Mackie, et Brandy l'a acheté à Seattle, avec jupe entravée moulante qui lui resserre le cul en forme parfaite de grand cœur. Vous ne croirez pas combien ce tailleur a coûté. La marge bénéficiaire est d'environ 1 milliard de pourcents. La veste du tailleur a des petites basques en jupette péplon avec larges revers et épaules marquées. La coupe droite est symétrique, à l'exception du trou qui crache son sang en pulsation. Et c'est alors qu'Evie se met à sangloter, debout qu'elle est là sur l'escalier. Evie, ce virus mortel de l'instant qui nous tient, c'est le signal pour que tous nos regards se portent sur la pauvre Evie, la pauvre, triste Evie, sans plus un poil sur le caillou et vêtue de plus rien que des cendres, encerclée par la cage en fil métallique de sa robe, à cerceau complètement consumé. Et c'est alors qu'Evie lâche le fusil. Son visage sale, entre ses mains sales, elle s'assied et commence ses bouh, comme si les pleurs allaient résoudre quoi que ce soit. Le fusil, c'est une carabine chargée au 30-0. Il dégringole les marches avec fracas, et s'en vient déraper jusqu'au milieu du hall d'entrée, en tournoyant sur le plat de la crosse, comme se pointer sur moi, pour se pointer sur Brandy, pour se pointer sur Evie en pleurs. Ce n'est pas que je sois une sorte d'animal, de labo complètement détaché des réalités, uniquement conditionné pour ignorer la violence, mais mon premier instinct est que peut-être il n'est pas encore trop tard pour tapoter la tache de sang d'eau de Cels. Jusqu'à présent, la majeure partie de ma vie d'adulte s'est passée debout sur du papier sans joint, pour une tapée de bifondeur, portant vêtements et chaussures, impeccablement coiffés, avec un célèbre photographe de mode me disant comment je dois me sentir. Lui qui me hurle « Fais ça, désir et sexe, poupée. Éclair du flash. Fais-moi ça, malveillante. Éclair du flash. Fais-moi ça, ennui existentialiste détaché. Éclair du flash. Fais-moi ça, intellectualisme conquérant comme mécanisme de survie. Éclair du flash. » Probable que c'est le choc de voir ma seule pire ennemie abattre mon autre pire ennemi. Voilà ce que c'est. Boum. Et ça devient une situation où on gagne à tous les coups. Ça, et le fait de traîner avec Brandy, je suis devenu plutôt pas mal accro au dramatique. Aussi, quand je me mets un mouchoir sous le voile, ce n'est qu'une illusion de larmes. En fait, c'est pour respirer. Pour filtrer l'air dans ma mesure où il est devenu, comme qui dirait, presque impossible de respirer à cause de toute la fumée, parce que le grand manoir résidentiel d'Evie est en train de brûler autour de nous. Moi, agenouillé à côté de Brandy, suffirait que je glisse la main partout dans ma longue robe et j'y trouverai du Darvon, du Demerol et du Darvossé 100 mètres cubes. C'est le signal pour que tous les regards se tournent vers moi. Ma robe est une copie, un imprimé de linceul de Turin, marron et blanc pour l'essentiel, drapé et taillé de ma manière, que les boutons rouges brillants boutonnent au travers des emplacements de stigmates. Il faut dire aussi que j'ai la tête enveloppée de mètres et de mètres de mousseline, organdie noire, piquée, de petites étoiles en cristal taillées autrichien. Côté figure, impossible de savoir l'air que j'ai, mais c'est là l'idée générale. L'allure est élégante et sacrilège et me fait me sentir sacré et immoral. Très haute couture qui se fait de plus en plus haute. Le feu approche doucement du papier peint du hall d'entrée. Ce que j'ai fait, pour compléter l'agencement du décor, c'est que c'est moi qui ai mis le feu. Les effets spéciaux, ça facilite les choses pour animer une atmosphère. Et, après tout, ce n'est pas comme si on était dans une vraie maison. Ce qui est en train de brûler est une recréation d'une maison historique remise au goût du jour, d'après un modèle repris d'une copie, d'une copie, d'une copie d'un vaste pseudo-manoir de style Tudor. À des centaines de générations de distance de quoi que ce soit d'original, mais en vérité, est-ce que ce n'est pas la même chose pour chacun d'entre nous, tous autant que nous sommes? Juste avant qu'une Evie hurlant à tue-tête ne descende l'escalier pour tirer sur Brandy Alexander, moi, ce que je fais, c'est que j'ai versé au moins 4 litres de Chanel numéro 5 avant d'y coller un carton d'invitation au mariage enflammé, et boum, me voilà qui recycle. C'est drôle. Mais quand on y réfléchit bien, même le feu tragique le plus violent n'est rien plus qu'une réaction chimique soutenue, l'oxydation de Jeanne d'Arc. Au sol, toujours tournoyant, la carabine se pointe sur moi, se pointe sur Brandy. Autre petit détail, c'est que, quelle que soit l'intensité de l'amour qu'on croit éprouver pour quelqu'un, on fait un pas en arrière quand la flaque de sang commence à se rapprocher d'un peu trop près. Hormis tout le côté grand drame de ce qui est en train de se jouer, la journée est vraiment très agréable. Une belle journée chaude et ensoleillée, avec la porte en façade ouverte sur le perron d'entrée et son avant-toit et la pelouse au dehors. Le feu à l'étage entraîne la chaude odeur de pelouse fraîchement tondue jusque dans le hall d'entrée. Et on ne peut entendre tous les invités au mariage de l'extérieur. Tous les invités, ils ont pris les cadeaux qu'ils voulaient et s'en sont allés attendre sur la pelouse que les pompiers et les ambulanciers fassent leur entrée. Brandy, elle ouvre une de ses énormes mains, emperlée de bagues, et elle touche le trou qui déverse son sang à travers tout le marbre du sol. Brandy, elle dit « Merde ! Il est hors de question que le bon marché me reprenne ce tailleur. » Evie relève la figure, une figure comme un foutoir de peinture aux doigts et à la suie, à la morve et aux larmes, et elle hurle « Je déteste que ma vie soit aussi ennuyeuse. » Evie hurle à Brandy Alexander en contrebas « Quand tu seras en enfer, garde-moi donc une table avec vue. » Les larmes délavent deux rigoles bien propres sur les joues d'Evie. Elle hurle « Et ça se dit une amie, faudrait que tu me hurles dessus quelques gracieusetés, toi aussi, non ?» Et comme si tout ceci n'était pas du tout du drame, Brandy relève les yeux vers moi, agenouillée à côté d'elle, avec ses yeux aubergines qui se dilatent jusqu'à pleine floraison, et elle dit « Brandy Alexander va mourir maintenant ?» Evie, Brandy et moi, tout ça n'est qu'une lutte de pouvoir pour être sous les feux des projecteurs. Rien que moi première, et pas une pour acheter l'autre. La meurtrière, la victime, le témoin. Chacune de nous trois pense que son rôle est le premier rôle. Probable que c'est vrai pour n'importe qui dans le vaste monde. Tout ça, c'est miroir, dis-moi. Parce que la beauté, c'est le pouvoir, de la même manière qu'une arme, c'est le pouvoir. Aujourd'hui, quand je vois dans le journal la photo d'une vingtaine et quelques qui a été enlevée, sodomisée, volée et ensuite tuée, et qu'il y a une première page, un cliché d'elle, jeune et souriante, en lieu et place de moi en train de penser que c'est là un bien grand triste crime, la réaction qui me vient des tripes, c'est « Waouh !» Elle serait vraiment canon si elle n'avait pas un tel troublon à la place du nez. Ma deuxième réaction, c'est que je ferais bien d'avoir à portée de main, tout près, quelques bons tirages tête et épaule juste au cas où. Enfin, vous me suivez, au cas où je me ferais moi aussi enlever et sodomiser à mort. Ma troisième réaction, c'est bon. Eh bien, ça en fait une de moins dans la compétition. Et si ça ne suffit pas, mon lait hydratant que j'utilise en émulsion de solide fauteux inerte dans les huiles hydrogénées, ce que je veux préciser par là, c'est que, en toute honnêteté, ma vie ne concerne que moi tout entière exclusivement. À moi, dois-je le préciser, que le compteur s'égrène et qu'un photographe me hurle « Fais-moi ça empathie, ensuite éclaire du flash trop beau. Fais-moi ça empathie, éclaire du flash. Fais-moi ça honnêteté brutale, éclaire du flash. » « Ne me laisse pas mourir ici par terre, » dit Brandy, et ses grandes mains se saisissent de moi. « Mes cheveux, dit-elle, mes cheveux vont être tout raplatis derrière. Ce que je veux là, c'est que je sais que Brandy va peut-être probablement mourir. Mais moi, c'est juste que je n'arrive pas à entrer dans le jeu. » Evie sanglote, même plus fort, et pour couronner le tout, les sirènes des pompiers, bien loin, là dehors, sont en train de me couronner reine de Migraineville. La carabine continue toujours de tournoyer au sol, mais de plus en plus lentement. Brandy dit « Ce n'est pas comme ça que Brandy Alexander voulait voir sa vie la quitter. Elle est censée être célèbre d'abord. » Tu sais, elle est censée passer la télévision à mi-temps sur le Super Bowl, en train de boire un coca allégé, nu au ralenti avant de mourir. La carabine cesse de tournoyer et se pointe sur personne. Devant les sanglots d'Evie, Brandy hurle « La ferme ! La ferme toi-même !» lui retourne Evie en hurlant elle aussi. Derrière elle, le feu commence à descendre en dévorant la moquette de l'escalier. Les sirènes, on les entend qui vont, qui viennent et qui hurlent au travers tout le West Hills. Les gens vont littéralement se bousculer pour composer le numéro des urgences et être le grand héros du jour. Personne ne paraît prêt pour l'équipe de télévision au grand complet qui va débarquer incessamment sous peu. « C'est là ta dernière chance, chérie, » dit Brandy, et son sang s'étale à travers tout. Elle dit « Est-ce que tu m'aimes ?» Et c'est quand on ose vous poser cette question que vous n'êtes plus sous les feux des projecteurs. Et c'est comme ça qu'on vous piège pour ne faire de vous que le meilleur second rôle. Encore plus énorme que cette maison en train de brûler, il y a ce gigantesque espoir que je vais avoir à dire les trois mots les plus galvaudés qui se puissent se trouver dans n'importe quel script. Ces mots, et rien que, suffisent à me donner l'impression que je suis en train de me fourrer du doigt sans ménagement. Ce ne sont que des mots, c'est tout. Impuissant, du vocabulaire, du dialogue. « Dis-moi, » répète Brandy, « est-ce que c'est vrai que tu m'aimes ?» C'est ça, la façon outrée et outrancière dont Brandy a interprété toute sa vie. Toujours un peu too much. Le grand théâtre continuellement non-stop de Brandy Alexander en chair et en os. Mais avec de moins en moins de chair et d'os chaque instant qui passe. Rien que pour faire cette scène et pause, je prends la main de Brandy dans la mienne. Joli geste, mais alors ça me colle des boules. Et je me sens qui disjoncte complètement à cause de ce sang porteur de germes pathogènes quand boum, le plafond du salon dégringole et des étincelles de la braise qui précipitent de sur nous depuis l'embrasure de la porte de la salle à manger. Mais, même si tu ne peux pas m'aimer, raconte-moi au moins ma vie, dit Brandy. Une fille, ça ne peut pas mourir sans voir sa vie défiler en images devant ses yeux. Il n'y a pratiquement personne qui puisse se vanter de voir ses désirs émotionnels satisfaits. Et c'est à ce moment que le feu qui dévore la moquette de l'escalier en arrive au cul nu d'Evie. Evie se remet debout en hurlant avant de descendre les marches 4 à 4 sur ses hauts talons blancs complètement calcinés. Nue et sans un poil de cheveux sur la tête, vêtue de cendres et de fils de fer, Evie Cottrell sort au pas de course par la porte d'entrée vers un plus vaste public. Les invités à la réception de mariage, l'argenterie et les cristaux, et les camions de pompiers qui arrivent. C'est ça, le monde dans lequel nous vivons. Suffit que les conditions changent et nous voilà en pleine mutation. Et donc, naturellement, tout ceci ne traitera que de Brandy, avec votre serviteur comme animatrice du show, et quelques invités en la personne d'Evelyne Cottrell et du mortel virus du sida. Brandy, Brandy, Brandy! Pauvre triste Brandy allongée sur le dos. Brandy qui touche le trou qui déverse sa vie sur le sol en marbre et qui dit « S'il te plaît, raconte-moi ma vie. Raconte-moi comment nous en sommes arrivés là. » Et donc, moi, je me retrouve assise là, à bouffer de la fumée, rien que pour étayer, pièce à l'appui, ce grand moment Brandy Alexander. Fais-moi ça attentive, éclair du flash. Fais-moi ça adoration, éclair du flash. Fais-moi, lâche-moi un peu, tu veux, éclair du flash.
Si vous existez, faites-moi votre plus gracieux sourire. J'en ai gros sur le cœur à vous dire. Je suis en veine de sincérité. Ce que je les ai dans le nez, ces mufles qui sous le nom de concurrence ont créé une source de souffrance, un genre légal d'assassiner. Rendez-moi mes 20 sous. Car j'ai passé ma belle jeunesse à me voir pousser des dents de sagesse quand j'avais rien à me foutre dessous. J'ai fait tous les métiers d'esclave, cependant j'ai jamais pu gagner ma boostify et mon loyer. À présent me v'là une épave, j'ai le poil terne des bêtes mal nourries. La dèche m'a fait la gueule flétrie, ma jeunesse reste étiolée. Je pourrais jamais m'en consoler, même si qu'un jour je tournais aux riches. Par un effet de votre bonté, ce jour-là je ferais mettre une affiche. On cherche à vendre un cœur gâté. Mes potos combien m'ont trahi, pourtant m'en reste quelques-uns de fidèles. Mais pour la mouise ils me gagnent la belle, c'est comme un syndicat de failli. Des amours mignons m'ont pâli, et la vie les a massacrés. Mes mains les ont ensevelis, mes yeux les ont beaucoup pleuré. J'suis prêt de périr, et v'là ma peine elle est bien vraie. Quand un malade il a une plaie, faut-il rien faire ou la guérir? Et je me vois comme à l'ambulance du champ de bataille de mes douleurs. Faut-il toujours têter ses pleurs et bouffer le pain de l'obéissance? Printemps me saoule à son tour, mon sang ça n'est plus de l'eau de lessive. J'ai des bécots plein les gencives et j'ai les rognons pleins d'amour. Je le sais que c'est la fête et que le temps d'aimer il est venu. Qui ferait même bon d'aller tout nu avec au bras une gigolette pour faire la culbute dans les foins, sans culbutant et sans témoin. Mais outre que je suis trop mal frusqué, j'ai pas de peste pour en embarquer. Aucune avouerait de ma tristesse. Vous avez de l'instruction. Pourquoi qu'il y en a qu'on des maîtresses, malgré qu'il n'ait pas de position? Je suis le fils des villes, nom de mon village. Si j'ai des envies, des besoins, c'est la photo grand magasin à leurs magnifiques étalages. On entend Jeanne le boulanger, comme si qui serait prêt de son trépas. Et ses soupirs me font songer qui fait du pain où je mordrai pas. Quoi il faut dire, quoi il faut faire. J'ai même plus la force de pleurer. Je sais pas pourquoi je suis sur la terre et je sais pas pourquoi je m'en irai. Quoi il faut dire, quoi il faut faire. J'ai même plus la force de pleurer. Je sais pas pourquoi je suis sur la terre et je sais pas pourquoi je m'en irai. sans vous commander. V'là que ça me reprend, y'a pas d'offense. Je voudrais comme dans ma petite enfance coller mon slip sur deux nénés sans que ça vous froisse. Je vous tends mon cœur comme la pucelle, et puis mes bras chargés d'angoisse, lourd du malheur universel. Car si j'étais seul à la dure, je ne vous poserais pas tant de pourquoi. Mais le plus affreux de l'aventure, c'est qu'ils ont des millions comme moi. L'homme est pas fait pour la misère, et contrarier ses beaux désirs, ni pour que ses francs, je le force à faire des travails noirs et sans plaisir. Car ils s'enferment dans des usines, des 40 et des 50 ans, dans des bureaux, des officines, alors que les cieux sont éclatants. Si vous existez, donnez-nous la moelle d'être libre et de remettre tout en équilibre suivant la grâce et la bonté. Donnez-nous la liberté. Donnez-nous la liberté. Donnez-nous la liberté. Et quant à moi pour le présent, je voudrais que mes fins soient assouvies. Je veux plus m'arner, je veux vivre ma vie. Et tout de suite, pas dans 10 ans. Je suis sur la terre, c'est pour y vivre. J'ai des poumons pour respirer, des yeux pour voir, non pour pleurer. Un cerveau pour lire tous les livres, un estomac pour le satisfaire. Un cœur pour aimer, non haïr. Des mains pour cueillir le plaisir. Et non turbine, et pour mes frères, souper des faiseurs de système. Ces économistes distingués, des faiseurs de loi qui battent la flemme. Toute loi étrange d'une liberté. Souper des rois, souper des maîtres, des parlements, des papes, des prêtres. Et comme j'ai pas d'autre bien que ma peau, il est tout choisi mon drapeau. Souper des villes, des royaumes, où la misère fait ses monomes. Souper de ce qui est civilisé, car c'est le malheur organisé. Nos pères ont assez travaillé, et bien assez égorgillé. L'homme de notre temps faut qu'il se repose, et que l'existence lui tourne en rose. Si vous existez, donnez-nous la force d'être libre, et que mes souhaits s'accomplissent. Si vous existez, car au printemps, c'est ce que vous faites, alors que la vie est en fête, il serait peut-être bien bon d'être une bête, ou riche, et surtout bien aimé. Et que mes souhaits s'accomplissent, ça serait bien bon si ce n'est justice.
Ne vous attendez pas à trouver dans ce qui suit une variété de récits qui se déroulent genre, et alors, et ensuite, et après. Le déroulement des événements donnera plus une impression de magazine de mode. Style chaos, style mode, vogue ou glamour, avec numéro de page toutes les deuxième, cinquième ou troisième pages. Avec des cartes échantillons du parfum qui dégringolent quand on l'ouvre, et des femmes nues pleines pages sortant de nulle part pour vous vendre des produits de maquillage. Ne cherchez pas de sommaire, enterrez modèle magazine vers les pages 20. Ne vous attendez pas à trouver quoi que ce soit tout de suite, là, immédiatement. Parce qu'il n'y a pas non plus de modèle à suivre. Des récits vont démarrer, et alors, trois paragraphes plus loin, saut à suivre, page je sais plus quoi. Et ensuite, saut arrière à suivre. Ce sera 10 000 coordonnées mode qui se mélangent, s'accordent et se désaccordent pour ne céder au final que peut-être 5 ensembles de bon goût dignes de ce nom. 1 million d'accessoires tendances, foulards et ceintures, chaussures, chapeaux et gants, et pas vraiment de vêtements avec lesquels les porter. Et vraiment, mais alors vraiment, cette sensation-là, il faut vous y habituer ici sur l'autoroute. Au boulot, dans votre mariage. C'est cela le monde dans lequel nous vivons. Continuez à suivre ce que vous souffle la machine. Soirière, à suivre, de 20 ans jusqu'à la Maison Blanche où j'ai grandi avec mon père, en train de nous filmer en Super 8, mon frère et moi courant autour de la cour. Saut à suivre jusqu'à l'instant présent, avec mes vieux assis dans des fauteuils de jardin le soir, en train de regarder ces mêmes films Super 8 projetés sur le mur pigeon blanc de cette même maison blanche 20 ans plus tard. La maison, rien n'a changé. Le jardin, rien n'a changé. Les fenêtres projetées dans les films alignées exactement au quart de poil avec les vraies fenêtres, l'herbe du film alignée sur la vraie herbe, et mon frère et moi, en projection filmée, deux marmots en train de courir comme des foufoufous pour la caméra. Saut à suivre jusqu'à mon frère, tout malheureux et mort du sida, cette peste monstrueuse. Saut à suivre jusqu'à moi, adulte et amoureuse d'un inspecteur de police, et qu'on éloigne pour que je devienne un célèbre supermodèle. Souvenez-vous, simplement. Pareil que pour un numéro exceptionnel de Vogue Magazine, souvenez-vous que vous aurez beau suivre au plus près les sauts de page, à suivre saut de page je sais plus quoi, vous aurez beau vous montrer précautionneux, viendra inévitablement le sentiment que vous avez raté quelque chose. Cette sensation d'effondrement viscéral que vous n'avez pas fait l'expérience de tout ce qu'il y avait à expérimenter. Cette sensation du cœur qui vous tombe dans les chaussures parce que vous vous êtes précipité, traversant bille en tête ces moments auxquels vous auriez dû prêter toute votre attention. Eh bien, cette sensation-là, vous vous y habituez. Un jour, c'est comme ça que vous vous sentirez face à votre existence tout entière. Tout ça, ce n'est que de l'entraînement. Rien de tout ça n'a d'importance. Nous nous en sommes qu'au stade de l'échauffement. Saut à suivre jusqu'ici maintenant. Brandy Alexander en train de saigner à mort sur le sol avec moi agenouillé à ses côtés, qui lui fait le récit que voici. Avant, c'est nous que v'là les ambulanciers. Soirière à suivre, rien que de quelques jours, jusqu'au salon d'une riche maison à Vancouver, Colombie-Britannique. La pièce est lambrisée d'acajou sculpté style sucre d'orge rococo, avec plinthe en marbre et sol, et marbre et une variété de cheminées en marbre sculpté tout tarabiscoté, qui veut absolument se la jouer. Dans les riches maisons, où vivent les gens riches, tout est exactement comme vous le penseriez. Les lits rouges dans les vases émaillés sont vrais, ce n'est pas de la soie. Les rideaux couleur crème sont en soie, pas en coton lustré. L'acajou n'est pas du pain teinté pour ressembler à l'acajou. Pas de lustre en verre moulé qui frime en se prenant pour du cristal taillé. Le cuir n'est pas du vinyle. Tout autour de nous, il y a des tapis de fauteuils Louis XIV qui se la jouent coterie. En face de nous se trouve une fois encore une agente immobilière toute innocente, et la main de Brandy sort, ses poignets épaissis d'os et de veines, la crête montagneuse de ses phalanges, ses doigts alanguis, ses bagues et leurs brouillards de vert et de rouge taillé marquise, ses ongles porcelaine peints du rose pétillant, et elle dit « Ravi, je vous assure !» S'il vous faut commencer par un détail précis, il faut que ce soit les mains de Brandy. Emperlées de bagues pour les faire paraître encore plus grandes, les mains de Brandy sont énormes. Emperlées de bagues, comme si elles pouvaient être plus visibles encore qu'elles ne le sont. Les mains sont la seule partie du corps de Brandy Alexander que les chirurgiens n'ont pas pu changer. Et donc Brandy n'essaie même pas de les cacher, ses mains. Ce genre de maison, nous en avons visité bien trop pour que je me souvienne du nombre, et l'agente immobilière que nous rencontrons sourit toujours. Celle-ci arbore l'uniforme standard, complet bleu marine avec foulard rouge, blanc et bleu autour du cou. Elle a ses talons bleus aux pieds, et le sac bleu est accroché au creux du coude. Le regard de l'agente immobilière passe de la grande main de Brandy Alexander à Signor Alpha Romeo debout à côté de Brandy, et les yeux bleus foncés impérieux d'Alpha se fixent et s'attachent. Ces yeux bleus que vous ne voyez jamais se fermer ou se détourner, à l'intérieur de ces yeux-là se trouve le bébé ou le bouquet de fleurs, beau ou vulnérable, qui fait d'un homme beau quelqu'un qu'on peut aimer sans danger. Alpha n'est que le tout dernier d'un cortège ramassé au fil d'une année passée sur les routes d'hommes obsédés par Brandy, et de toute femme intelligente sait qu'un bel homme est son meilleur accessoire de mode. De la même manière qu'un mannequin vantrait les mérites d'un produit, une nouvelle voiture ou un grille-pain, la main de Brandy dessine une légère ligne dans les airs depuis son sourire et ses gros zooms jusqu'à Alpha. Puis-je me permettre de vous présenter, dit Brandy, Signor Alpha Romeo, cavalier servant, professionnel du sexe masculin de la princesse Brandy Alexander. De cette même manière, la main de Brandy balaye l'espace depuis ses cils, tout battant et ses chevelures flamboyantes, une ligne de mire invisible jusqu'à moi. Tout ce que l'agente immobilière va voir, c'est mes voiles, mousseline et velours avec motifs en crevé, marron et vert, tulissés d'argent, tellement multicouches qu'on croirait qu'il n'y a personne à l'intérieur. Me concernant, il n'y a rien à regarder, et donc la plupart de gens ne regardent pas. C'est un look qui dit « Merci de ne pas partager ». Puis je me permets de vous présenter, dit Brandy, Mademoiselle Kay Mac-Isaac, secrétaire particulier de la princesse Brandy Alexander. L'agente immobilière dans son tailleur bleu et bouton de laiteux Chanel, le foulard noué autour du cou pour masquer toutes ses bajoubes flasques, elle sourit à Alpha. Lorsque nul ne désire vous regarder, il devient possible de littéralement transpercer n'importe quel individu en le fixant des yeux assez longtemps. À relever tous les petits détails que sinon vous ne verriez jamais par manque de temps qui s'y lui venait, pour le plus petit des instants, de tout bonnement vous retrouver votre regard, cela c'est cela votre revanche, votre vengeance. Au travers de mes voitures, l'agente immobilière reluit de rouge et d'or un peu flou sur les bords. Mademoiselle Mac-Isaac, dit Brandy, sa grande main toujours ouverte vers moi, est muette et ne peut pas parler. L'agente immobilière, avec un son rouge à lèvres sur les dents, sa poudre et son fond de teint multicouche dans le papier crépon de ses cernes valises, ses dents prêtes à porter sa perruque lavable en machine, elle sourit à Brandy Alexander. Et voici! La grande main emperlée de bagues de Brandy remonte en arrondi délicat pour toucher les seins en torpilles de Brandy. Et voici! La main de Brandy remonte en arrondi délicat pour toucher les perles à sa gorge. Et voici! L'énorme main se lève pour toucher la volute empilée de la chevelure châtain. Et voici! La main touche d'épaisses lèvres mouillées. Voici, dit Brandy, la princesse Brandy Alexander. L'agente immobilière fléchit un genou et un semblant de quelque chose entre une révérence et ce qu'on fait devant un hôtel. Une génuflexion, c'est un tel honneur, dit-elle, je suis tellement persuadé que cette maison est absolument parfaite pour vous, cette maison vous ne pourrez que l'adorer. Garce glaçon comme elle sait si bien le faire, Brandy se contente de hocher la tête avant de faire demi-tour, direction le hall d'entrée par lequel nous sommes arrivés. Son Altesse et Mademoiselle Makizak aimeraient être seules pour visiter la maison, dit Alpha. Pendant que vous et moi discuterons des détails. Les petites mains d'Alpha se mettent à volter pour les explications, transfert de fonds, l'échange de lire italienne, au dollar canadien. Des huards, dit l'agent immobilière. Brandy et moi, Alpha, nous voilà tous figés comme des statues par là dans la seconde. Peut-être que cette femme a vu clair en nous. Peut-être que d'après les mois passés sur les routes et les dizaines de grandes maisons que nous nous sommes faites, peut-être que quelqu'un a finalement éventé notre arnaque. Des huards, dit la femme. À nouveau, fait une génuflexion, nous appelons nos dollars des huards, dit-elle. Elle plonge la main dans son sac bleu, je vais vous montrer. Il porte une image d'oiseau, dit-elle, c'est un huard. Brandy et moi, nous virons glaçons à nouveau pour commencer à nous éloigner. Retour vers le hall d'entrée. Retour au milieu des coteries de fauteuils, canapés, fauteuils. Le long des marbres gravés. Nos reflets se barbouillent, s'assourdissent, se tortillent derrière une vie entière de fumée de cigarettes sur les lambris d'acajou. De retour vers le vestibule d'entrée, je suis là avec la princesse Brandy Alexander pendant que la voix d'Alpha remplit toute l'attention entaillurée de bleu et de l'agente immobilière par des questions sous l'angle sous lequel le soleil du matin entre dans la salle à manger, ou quant à savoir si le gouvernement de la province autorisera un héliport personnel derrière la piscine. Se dirigeant vers les escaliers, il y a le dos d'esqui de la princesse Brandy. Veste en renard argenté drapée sur les épaules de Brandy et maître de foulard en brocart de soie noué autour de la volute empilée de la chevelure châtain de Brandy Alexander. La voix de la reine suprême de l'ombre de l'air du temps sont le cortège invisible derrière tout ce qui est le monde de Brandy Alexander. La chevelure châtain en volute empilée à l'intérieur de son écharpe en brocart de soie me fait penser à un muffin au son. Un gros petit cake à la cerise, ça ressemble fort à un nuage en champignons châtain frais qui se lève sur un atoll de Pacifique. Les pieds de cette princesse sont prisonniers de deux variétés de pièges lamé or avec saisie de jambes munies de petites lumières, or et chaînettes d'or. Sont ces pieds d'or-là, piégés, empruntés, entalonnés hauts, qui gravissent la première d'à peu près 300 marches qui montent du hall d'entrée au premier étage. Ensuite, elle gravit marche suivante et la suivante jusqu'à ce que sa personne dans son entier soit suffisamment loin au-dessus de moi pour qu'elle ose courir le risque de regarder en arrière. C'est à ce moment-là seulement qu'elle fera pivoter tout le gâteau frais de sa tête. Ses gros seins en torpille de Brandy Alexander, en silhouette profil, la beauté indécile de sa bouche professionnelle en plein champ pleine face. La propriétaire de cette maison, dit Brandy, est très vieille et se traite aux compléments hormonaux et vit toujours ici. La moquette est tellement épaisse sous mes pieds que je pourrais aussi bien escalader dans la terre molle. Un pas après l'autre, molle glissante et instable. Nous, Brandy, Alpha et moi, nous parlons en anglais comme deuxième langue depuis si longtemps que nous l'avons oublié comme première langue. Je n'ai pas la langue natale. Nous en sommes au niveau à hauteur d'yeux avec les pierres sales d'un lustre sombre. De l'autre côté de la rambarde, le sol en marbre gris de l'entrée nous donne l'impression d'avoir gravi un escalier qui aurait traversé les nuages. Pas d'après pas, loin très loin, le discours des exigences d'Alpha continue, traitant de cave à vin, de chenil, pour les chiens loups russes. L'accaparement consent l'attention de l'agente immobilière par Alpha nous parvient aussi faiblement qu'un programme radio avec « Appel des auditeurs » se réverbant depuis l'espace sidéral. La princesse Brandy Alexander ? Les chaudes et sombres paroles d'Alpha sont en monde flottant. Elle est probablement en train d'enlever ses vêtements et de hurler comme les chevaux sauvages en même dans les restaurants bondés. La voix de la reine suprême et l'ombre de l'air du temps disent « La prochaine maison annonce ses lèvres pleines de pagots. Alpha fera le muet, vos seins. » Et en train de dire Alpha à l'agent immobilière « Vous avez deux seins d'une jeune femme. » Il ne reste pas une seule langue natale à nous trois. Soit à suivre jusqu'à nous au premier, soit à suivre jusqu'à maintenant, tout et n'importe quoi est possible. Après que l'agent immobilière est prise au piège des yeux bleus de Signor Alpha Romeo, soit à suivre jusqu'au moment où le véritable arnaque commence. La chambre à coucher principale se situera toujours au bout du couloir, dans la direction de la plus belle vue. Cette chambre à coucher de maître si est l'imbrisée de miroirs roses, tous les murs, même le plafond, la princesse Brandy et moi, nous sommes tout partout, réfléchis sur toutes les surfaces. On peut voir Brandy assise sur le plateau rose d'un côté du meuble lavabo coiffeuse et moi assise de l'autre côté du lavabo. L'une de nous est assise de chaque côté de tous les lavabos dans tous les miroirs, c'est juste qu'il y a un trop grand nombre de Brandy Alexander à compter. Elles sont toutes à jouer les patronnes avec moi aux ordres. Toutes elles ouvrent leurs sacs pochettes en velin blanc et des centaines de grosses mains Brandy Alexander emperlées de bagues en sortent des exemplaires tout neufs de Physician Desk Reference, notre Vidal. Avec sa couverture rouge aussi gros qu'une bible. Toutes ces centaines d'yeux aux paupières ombrées de Burning Blueberry me regardent depuis toutes les surfaces de la pièce. « Connais le topo ?» ordonne ces centaines de boucles plampago. Ses grosses mains commencent à ouvrir tiroirs et portes de placards. « Souviens-toi de l'endroit où tu prends les choses et remets-les exactement là où tu les as trouvées, » dit la bouche. « Nous allons nous occuper d'abord des médicaments et ensuite des produits de maquillage, » commence la chasse. Nous sort alors le premier flacon, c'est du Valium. Je teins le flacon de manière que toutes les centaines de brandies puissent lire l'étiquette. « Prends-en autant que tu peux, mais sans que cela se remarque, » dit Brandy, « et ensuite tu passes au flacon suivant. » Je secoue quelques-unes des petites pilules bleues du flacon dans la poche de mon sac auprès des autres Valium. Le flacon suivant que je le trouve, c'est du Darvon. Ma chérie, celle-là, c'est du paradis en bouche. Toutes les brandies relèvent les yeux pour scruter le flacon que je tiens. Est-ce que ça paraît sans danger d'en prendre trop ? La date de péremption sur l'étiquette nous laisse encore un mois, et le flacon est pratiquement plein. Je pense que nous pouvons nous en prendre environ la moitié. Tiens, m'arrive une grosse main emperlée de bagues depuis toutes les directions. 100 grosses mains m'arrivent dessus, paume en l'air, donnant quelques-unes à Brandy, la princesse a de nouveau mal dans le bas du dos. Je secoue 10 cachets. Et 100 mains balancent 1000 tranquillisants sur les moquettes rouges des langues de toutes ces bouches plampago. Une cargaison suicide de Darvon glisse dans l'intérieur sombre des continents qui forment tout le tout un monde de Brandy Alexander. À l'intérieur du flacon suivant, il y a des petites ovales violets dosées en 2,5 mg de Premarin. C'est un raccourci pour prégnant Marie Urine, urine de jugement enceinte. C'est un raccourci pour des milliers de malheureux chevaux dans le Dakota du Nord et le Canada central, obligés de rester debout dans une stalle sombre et étroite avec un cache-pied enfoncé dans chacun afin de récupérer jusqu'à la dernière goutte d'urine et seulement libre de ressortir au dehors pour se faire à nouveau baiser. Ce qui est drôle, c'est que ça décrit plutôt pas mal n'importe quel séjour de longue durée dans un hôpital, mais cela n'a été que mon expérience personnelle. « Ne me regarde pas comme ça, » dit Brandy. « Le fait que je prenne pas ces cachets ne ramènera aucun bébé poulain de chez les morts. » Le flacon rond suivant contient des petits cachets ronds, s'éclabent, couleur pêche, alcatrin, dosés de 100 mg. Notre propriétaire doit être une vraie camée aux hormones féminines. Les antalgiques et les oestrogènes représentent pratiquement les deux seules catégories alimentaires de Brandy. Et elle dit « Donne, donne, donne !» Elle s'offre un encas de petits estinils enrobés de rose. Elle s'avale quelques-unes des pilules bleues turquoise et strass. Elle est en train de se crémer les mains de Premarin vaginal quand elle dit « Mademoiselle Kay ?» Elle dit « J'ai l'impression que je n'ai plus assez de jus pour serrer le poing, ma douce. Tu ne crois pas peut-être que tu pourrais finir le travail pendant que je m'étends un peu ?» Les centaines de ma personne clonée dans un miroir rose de la salle de bain, nous passons l'inspection des produits à maquillage pendant que la princesse s'en va faire un petit somme dans le vieux lit en baldaquin rose sans feuilles, loire de la chambre à coucher du maître. Je trouve que des dards vossés, des percodans, des compazines, nombutailles et percossées, oestrogènes oraux, anti-androgènes, progestons, patch oestrogène transdermique, et je ne trouve aucune des couleurs de Brandy, pas de fard à joues, rusty rose, pas d'ombre à paupières burning blueberry, je trouve un vibromasseur avec à l'intérieur des piles boursouflées qui scintent d'acide. Et une vieille femme, la propriétaire de cette maison à mon avis, ignorée, vinuissante, droguée jusqu'aux yeux. Les vieilles femmes, plus vieilles et plus invisibles aux yeux du monde, à chaque minute qui passe, elles ne doivent pas porter beaucoup de maquillage. Sortir s'éclater dans les lieux branchés, guincher jusqu'à s'en péter les sous-ventrines, l'écume aux lèvres. Mon haleine sent le chaud à l'aigre à l'intérieur de mes voiles, à l'intérieur des couches moites de soie, de voilettes, de coton gorgeorgettes que je soulève dans toutes les premières fois de cette journée. Et dans les miroirs, je contemple le reflet rose de ce qui reste de mon visage. Miroir, miroir, dis-moi, qui est la plus belle de toutes ? La méchante reine a été stupide de se prêter au jeu de Blanche-Neige. Il y a un âge où une femme doit passer à autre chose, à un autre genre de pouvoir. L'argent, par exemple, ou une arme à feu. Je vis la vie que j'aime, me dis-je, je l'aime, je vis ce que je vis. Je me dis moi-même, j'ai mérité ça, c'est ça exactement ce que je voulais. En question point de vue, et nous sommes toujours sur notre thématique spéciale Fight Club avec des analyses et des détails et des lectures autour de l'œuvre de Chuck Palahniuk. Et pour cette dernière émission sur notre thématique spéciale du mois de novembre, nous allons vous lire un passage de Fight Club, donc des passages cultes qui sont pas forcément présents dans le film, mais qui sont présents dans le livre et qui permettent un peu de mieux comprendre la psyché du personnage principal et de voir comment il conçoit la vie. Et donc pour ce faire, je vais vous lire le chapitre 14 du livre Fight Club de Chuck Palahniuk, édition Folio. Et l'édition, ça va être... 1996. Chapitre 14. C'est la raison pour laquelle j'ai tant aimé les groupes de soutien. Si les gens vous croyaient en train de mourir, ils vous accordaient toute leur attention. s'il s'agissait qu'il pouvait savoir de la dernière fois où on vous voyait, où il nous voyait vraiment. Tout le reste, le compte bancaire, les chansons à la radio, les cheveux entremêlés, les mal coiffés, plus rien n'avait d'importance. Vous aviez leur attention pleine et entière. Les gens écoutaient au lieu de simplement attendre leur tour de parler. Et lorsqu'ils parlaient, ils ne vous racontaient pas d'histoire. Lorsque vous conversiez avec quelqu'un, vous bâtissiez quelque chose avec lui. Et ensuite, vous étiez l'un et l'autre différent de ce que vous étiez auparavant. Marla avait commencé à fréquenter les premiers groupes de soutien après avoir découvert sa première grosseur. Le matin qui suivit notre découverte de sa seconde grosseur, Marla arriva dans la cuisine en sautillant les deux jambes dans une jambe et en se collant et dit « Regarde, je suis une sirène », Marla dit. Ça n'a rien à voir avec les mecs qui se reculent sur le siège des toilettes en prétendant qu'il s'agit d'une moto. Ça, c'est un accident authentique. Juste avant notre première rencontre, Marla et moi, à Homme, toujours tous ensemble, il y avait la première grosseur et maintenant il y avait la seconde grosseur. C'est ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que Marla est toujours en vie. La philosophie de la vie, selon Marla, elle me l'a dit, est qu'elle peut mourir à tout instant. La tragédie de sa vie, c'est qu'elle ne meurt pas. Lorsque Marla a découvert sa première grosseur, elle s'est rendue compte dans une clinique où des mères épouvantails étaient affalées dans les fauteuils en plastique sur trois côtés de la salle d'attente, avec les enfants poupées tout mous sur les genoux ou allongés à leurs pieds. Les enfants avaient leurs traits creusés, les yeux cernés d'ombre à la manière des oranges et des bananes qui mûrissent trop et se ratatinent. Les yeux cernés d'ombre à la manière des oranges et des bananes qui mûrissent trop et se ratatinent. Je répète une deuxième fois. Et les mères leur grattaient le crâne et les couches de pellicules nées d'infections mycologiques échappant à tout traitement. À voir la façon dont les dentitions des gens à la clinique paraissaient énormes au milieu des visages si minces, on s'apercevait que les dents ne sont que des esquilles d'os qui viennent vous traverser la peau pour écraser et meubler les choses. C'est là qu'on se trouve lorsque l'on n'a pas d'assurance santé. Avant même qu'on ait pu envisager les conséquences, des tas de mecs gays avaient voulu des enfants. Aujourd'hui, les enfants sont malades, les mères sont en train de mourir et les pères sont morts. Et assises dans l'odeur du vomi de l'hôpital, un mélange de relents, de pisse et de vinaigre, pendant qu'une infirmière interroge chaque mère pour savoir depuis combien de temps elle est malade et combien de kilos elle a perdu et si son enfant est un parent ou un tuteur vivant. Marla décide que non. Si elle allait mourir, Marla ne voulait pas le savoir. Marla a tourné au coin de la rue, une fois sortie de la clinique, direction la blanchisserie municipale, et elle a volé tous les jeans des séchoirs avant de se rendre chez un fourgue qui lui a offert 15$ pièce. Ensuite, Marla s'est acheté des collants de vraiment bonne qualité, le genre qui ne file pas. Même ceux qui filent pas, dit Marla, ils accrochent. Rien n'est statique, tout part à volo. Marla a commencé à fréquenter des groupes de soutien dans la mesure où il était plus facile à traîner ses guêtres autour d'autres trous du cul humains. Il y a quelque chose qui foire, c'est tout à chacun. Et pendant un moment, son cœur s'est comme qu'il irait mis à battre plat. Marla a commencé un boulot. Ça consistait à exécuter des contrats funéraires payés par anticipation pour une entreprise de pompes funèbres où il arrivait que des grands hommes obèses, mais plus fréquemment des femmes obèses, sortent de la salle d'exposition de la maison mortuaire chargée d'une urne funéraire de la taille d'un coquelotier. Et Marla était là, assise à son bureau dans le hall, avec ses chevelures sombres soigneusement nouées, son collant avec accroc, sa grosse ressein, son destin désespéré pour dire « Madame, ne vous flattez pas. Nous ne pourrions même pas faire entrer votre tête calcinée dans cette chose minuscule. Retournez là-bas et revenez dans une urne de la taille d'une boule de bowling. » Le cœur de Marla avait le même aspect que mon visage. Toute la merde, toute l'ordure du monde, du torche-cul humain après consommation que personne n'irait jamais se donner le mal de recycler. Entre les groupes de soutien et la clinique, Marla m'avait dit elle avait rencontré des tas de gens qui étaient décédés. Des gens étaient morts, ils étaient de l'autre côté, et la nuit, ils appelaient au téléphone. Marla allait dans les bars, elle entendait le barman qui l'appelait par son nom, et lorsqu'elle prenait l'appel, la ligne était morte. À l'époque, elle croyait que c'était cela, toucher le fond. « Quand tu as 24 ans, dit Marla, tu n'as aucune idée de la profondeur dans laquelle tu peux véritablement tomber, mais j'ai appris vite, j'étais bon élève. » La première fois que Marla a rempli son urne funéraire, elle n'avait pas mis de masque sur son visage. Et ensuite, elle s'est mouchée et dans le mouchoir en papier se trouvait le magma noir de Monsieur Machin. Dans la maison de Paper Street, si le téléphone sonnait une fois que vous décrochiez pour tomber sur une ligne morte, vous saviez qu'il s'agissait de quelqu'un assis en devant de Marla. La chose arrivait bien plus souvent qu'on ne pourrait le croire. Dans la maison de Paper Street, un inspecteur de police a consommé et a appelé à propos de l'explosion de mon appart, et à l'heure se portait là, la poitrine contre mon épaule, à murmurer au creux de mon oreille pendant que je collais le combiné dans l'oreille opposée. Et que l'inspecteur me demandait si je connaissais quelqu'un sachant fabriquer des limites maison. Le désastre est une part naturelle de mon évolution, murmura Tyler, vers la tragédie et la dissolution. J'ai dit à l'inspecteur que c'était le réfrigérateur qui avait fait sauter mon appart. Je suis en train de rompre mon attachement à tout pouvoir, toute possession physique, murmura Tyler. parce que ce ne sera qu'à travers ma propre destruction que je découvrirai le pouvoir de supérieur de mon esprit. La dynamite, dit l'inspecteur, il y avait une impureté, un résidu d'oxalate, d'ammoniac et de pétrolaque de potassium qui pourrait signifier que la bombe était de fabrication maison, et le pen dormant de la porte d'entrée était déchiqueté. J'ai dit que je me trouvais à Washington DC ce soir-là. L'inspecteur au téléphone a expliqué que quelqu'un avait vaporisé une bombe de fréon dans un verrou et à peine dormant qu'il avait ensuite attaché au ciseau froid pour fracasser le cylindre. C'est ainsi que les criminels volent les bicyclettes. Le libérateur qui détruit ma propriété, dit Tyler, combat pour me sauver l'esprit. Le professeur qui nettoiera mon chemin de toutes mes possessions me libérera. L'inspecteur a dit que celui qui avait préparé la dynamite maison aurait pu ouvrir le gaz et souffler sur la veilleuse de réchaud plusieurs jours avant l'explosion. Le gaz n'a été que le détonateur. Il aurait fallu des jours et des jours pour que le gaz remplisse l'appart avant d'atteindre la compression. Le compresseur est la base du réfrigérateur et que le moteur électrique du compresseur déclenche l'explosion. Dis-lui, murmura Tyler, dis-lui que c'est toi qui as tout fait sauter. C'est ça qu'il veut l'entendre. J'ai dit à l'inspecteur, non, je n'ai pas laissé le gaz ouvert jusqu'à avant de quitter la ville. J'adorais la vie que j'avais, j'adorais cet appart, j'adorais jusqu'aux petits détails des meubles. C'est toute ma vie, toutes les lampes, les fauteuils, les tapis étaient moi, les plats dans les placards étaient moi, les plantes étaient moi, les télévisions étaient moi. C'est moi qui ai sauté et volé en morceaux. Est-ce qu'il ne pourrait pas comprendre cela? L'inspecteur a dit de ne pas quitter la ville.
Tellement pâteuse, un putain de mot, à zéro. V'là le fait de tomber d'assez haut. Moi qui voulais un passé autre, comment se conjuguer au futur? Mon avenir, je suis passé outre. Frustré comme un nord-coréen qui désire se tirer assez haut. Ça va être dur, très très dur. La vie assez bas, assez haut. Torturé comme ça, putain, moi qui étais déjà assez ouf. Mon moral est passé où? Quand l'acier devient guimauve et brute le raffut d'un silence. Quand une personne ne dit mot, la mollesse d'un long dimanche. Sans amis, sans sentiments, du gouffre à quelques centimètres. Et un gros vide, j'ai senti naître le cœur vacant, le ventre idem.
C'était une soirée sans dîner,
un tantinet suicidaire comme l'indigent pour cantiner. Moment d'ivresse tout en finesse, le pack de douce me prend de vitesse. Les accidents peuvent s'éviter quand on est tous en mode fidèle. Résidus sur carte vitale, ma vie sur le fil de l'opinel. Dure de finir en quarantaine, un peu avant la 38ème.
Ce matin-là, j'enfilerai ma plus jolie chemise. Déposerai mes espoirs au fond de la remise. Songerai à des toiles couleur Henri Matisse. Comme jardin secret, un terrain vague que l'abandon ratisse. Quand je toucherai le fond, sur qui trouverai des rues. Laissant des luttes sans armes sur fond de noir perru. J'embrasserai ma mère, écouterai du Granados. Regoûterai la mer, me noyant dans le Calvados. Ce matin-là, le soleil sera ma seule fortune. Quelques regrets en guise de seule torture. M'assierai dans un bar en face d'un café noir. Gratterai un poème dans la pure veine de René Char. Repenserai à l'enfance et puis à l'amitié. Laissant chacun de mes foutus couplets sans héritier. Quand je toucherai le fond comme l'amour d'un soir. Ce sera beau comme la mort d'un roi.
Je suis seul comme cette main qui tâtonne le drap dès le réveil.
Seul.
Puis s'évapore ce joli minois dont je rêvais.
Seul.
Tirer la gueule devant ce mug de Kawa Ledge.
Passe le postier qui s'en gêne me demande si ça va.
En rajoute une puis une tonne dans la boîte à soucis. Seul que le sel au fond de mon caf noir adouci.
Si seul.
Au fond de la gare mon corps s'isole. Perdu au milieu de tous ces regards qui me cisaillent.
Si seul.
Que ma clé de sol en oublie l'arpège. La pêche d'une soirée kitsch d'un ermite en Ardèche. La dèche.
À croire que je suis seul sur ce sol glissant.
Partir au taf dans un peu de travail sans adoucissant. Esselé, l'eau salée, perle au bout de mes cils. Mon idée fixe quittera tout domicile. Homicide sur soi-même.
Ainsi soit-il, amen.
Le malaise est plus profond, j'irai le rejoindre quand je toucherai le fond.
Il me suffira d'un rire pour déjouer mes peurs. Ma petite monnaie en guise de pourboire pour le passeur. Mes idées noires derrière un front pluvieux. L'âme lourde permet de toucher le fond plus vite. Ce matin-là j'aurai les poumons pleins. De l'eau du fleuve, ces salauds de verre ne mourront pas. Et je flotterai dans les limbes au volant d'amarante. D'un petit jour dont seules les âmes sont apparentes. Nous serons pleins, ce sera l'hiver aux bras gelés. Tous, on se retrouvera au bar jeté. Encore quelques verres avant de se laisser là. C'est la tournée de la faucheuse, sa forme de mécénat. Ce matin-là, je manquerai à l'appel. Me disant tout bas que tout ça aura valu la peine. Puisque j'aurai vécu 20 siècles, quand je toucherai le fond, peut-être que j'écraserai un ciel.
pleine démo chez Microsoft, l'écran n'a défilé que deux fois et j'ai le goût du sang dans la bouche. Je suis obligé de me mettre à déglutir. Mon patron ne connaît pas le matériel, mais il refuse de me laisser diriger ma démo avec un œil au beurre noir et la moitié du visage enflé à cause des ponces sutures que j'ai à l'intérieur de la joue. Les ponces sont défaites et je le sens sur la pointe de ma langue au creux de la joue. Imaginez un tortillon de fil de pêche sur la plage. Moi, je les imagine bien comme les points de suture noirs sur un chien après qu'on l'a castré. Je continue à avaler mon sang. Mon patron fait la présentation à partir de mon topo et moi je m'occupe du rétroprojecteur, donc je suis en retrait sur un côté de la pièce dans l'obscurité. Mes lèvres s'engluent de sang, de plus en plus à mesure que j'essaie de lécher l'hémoglobine, et lorsque les lumières se rallumeront, je me tournerai vers les consultants, Hélène et Walter, Norbert et Linda et de chez Microsoft, et je dirai « Merci d'être venu !» La bouche brillante de sang et le sang en train d'insinuer dans les espaces entre mes dents. On peut avaler de l'ordre d'un demi-litre de sang avant d'être malade. Le Fight Club, c'est demain, et je ne vais pas rater le Fight Club. Avant la présentation, Walter de chez Microsoft m'offre un sourire modèle mâchoire pelleteuse mécanique, allé jusqu'à attendre le couleur de pommes de terre chips passées de barbecue. Walter et la chevalière blason me serrent la main, l'enveloppe de la main lisse et molle, et dit « Je détestais voir ce qui arrivait à l'autre mec. » La première règle du Fight Club, c'est qu'il est interdit de parler du Fight Club. J'ai dit à Walter que j'étais tombé, et je me suis fait ça tout seul. Avant la présentation, assis que j'étais en face de mon patron, à lui préciser les détails du montage diapo pour les correspondances de chaque cliché dans le script du moment où j'avais l'intention d'insérer les séquences vidéo, non, mon patron me dit « En quel pétrin avez-vous fourré dans tout le week-end ? C'est juste que je ne veux pas mourir sans quelques cicatrices, dis-je. Cela ne suffit plus d'avoir un beau corps d'origine, ce n'est plus rien. Quand on voit toutes les voitures d'origine absolument vierges, tout est gratinure, droit sorti d'un hall d'exposition de 1955, moi je me dis toujours « Quel gâchis !» La deuxième règle du Fight Club, c'est qu'il est interdit de parler du Fight Club. Peut-être qu'au moment du déjeuner, le serveur va s'approcher de votre table, le serveur a les deux yeux au beurre noir d'un panda géant. Reste du Fight Club de la semaine dernière, au cours duquel vous l'avez vu, la tête prise en étau entre le sol en béton et le genou d'un magasinier, les 200 livres lesquels n'arrêtaient pas de marteler du poing l'arête du nez du serveur. Encore et encore, comme un ballot qu'on bourre, à grands coups puissants dont le bruit monotone est répété, se faisait entendre par-dessus des hurlements jusqu'à ce que le serveur retrouve assez de souffle et crache le sang pour dire stop. Vous ne dites rien de tout, parce que le Fight Club n'existe que dans les laps de temps qui séparent le début du Fight Club et la fin du Fight Club. Vous avez vu le môme qui travaille à la photocopieuse. Il y a un mois de ça, vous avez vu ce môme incapable de se rappeler qu'il faut poissonner une demande de copie de ses trois trous ou placer des bandes de couleurs entre les parquets des photocopies. Mais ce môme a été un dieu 10 minutes durant, quand vous l'avez vu étaler d'un coup de pied un responsable de compte client deux fois comme lui, avant d'attirer sur le bonhomme et le rouer de coups, le réduisant à l'état de log jusqu'à ce que le môme soit forcé d'arrêter. C'est là la troisième règle du Fight Club. Quand quelqu'un dit stop, ou quand il n'est plus qu'une chiffre, même s'il fait semblant et rien d'autre, le combat est terminé. À chaque fois que vous voyez ce gamin, vous ne pouvez pas lui dire quel superbe combat il a fait. Deux mecs par combat, pas plus. Un combat à la fois. On se bat sans chemise ni chaussures. Les combats durent aussi longtemps qu'il le faut. Ce sont là les autres règles du Fight Club. L'identité des mecs du Fight Club, ça n'a rien à voir avec leur identité dans la vraie vie. Même si vous alliez dire au môme de la photocopieuse qu'il a fait un beau combat, vous ne parleriez plus au même homme. Celui que je suis au Fight Club, ce n'est pas quelqu'un que mon patron connaît. Après une soirée au Fight Club, tout ce qui est du monde, de la vraie vie, se retrouve atténué en sourdine. Plus rien ne vous ronge. Votre parole fait loi. Et s'il en est qui enfreignent cette loi ou vous remettent en question, même ça vous en fout pas en rogne. Dans le monde de la vraie vie, je coordonne les campagnes de rappel en chemise et cravate, assis dans le noir, la bouche pleine de sang, et je m'occupe de faire passer les diapos et fonctionner le rétroprojecteur tandis que mon patron raconte à Microsoft comment il a choisi une nuance particulière de bleu pâle pour son icône. Le premier Fight Club, c'était juste Tyler et moi en train de nous tabasser à coups de redoublés. Jadis, il ne suffisait de savoir que lorsque je rentrais furieux à la maison, l'idée que ma vie ne collait pas aux prévisions de mon plan quinquennal, je pouvais toujours vider mon appart ou revendre ma voiture. Un jour, je serais mort sans cicatrice, aucune, et il y avait toujours un appart et une voiture véritablement chouette. Vraiment, vraiment chouette, jusqu'à ce que la poussière se soit redéposée en donnant les prochains propriétaires. J'espère que cette émission vous a plu. Donc c'était une première expérience qu'on faisait du coup avec Simon afin de voir justement si ça pouvait être intéressant de pouvoir faire des lectures comme ça à la radio. Et j'espère que ça vous aura plu. Et du coup je vous dis à lundi prochain, donc du coup toujours sur Radio Pulse 90 FM. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, on a un compte Facebook qui s'appelle qdpv.radio, ainsi qu'un compte Instagram qui s'appelle de la même manière. Vous pouvez aussi nous envoyer des mails via qdpv.radio@gmail.com. et puis nous soumettre toutes les idées d'émissions qui pourraient vous plaire, la façon dont on pourrait les traiter, et ainsi de suite. Pour le mois de décembre, ce sera un mois un peu spécial, on ne choisira pas de thématique pour ce mois-là, parce que du coup, bah, c'est les vacances scolaires, et puis du coup, on a tous besoin de se faire une petite pause. Et du coup, pour les deux prochaines émissions, ce qu'on s'était dit avant les vacances, c'est que ça pourrait être sympa du coup de parler un peu de la vie à l'ancienne. Et pour ce faire, pour la prochaine émission du coup de QDPV, nous allons accueillir du coup Gauthier, qui est représentant et membre de l'association BPM, BPM Room, que vous connaissez tous, qui fait l'électro sur Alençon. Et du coup, on va parler un peu du fait qu'il n'y ait pas les électro-léos cette année à Alençon, et qu'est-ce qui va être fait pour compenser du coup ce manque, puis parler un peu de ce qui se passe dans la vie électronique des différents collectifs d'Alençon, et comment ça s'organise, et ainsi de suite. Donc on vous dit à lundi prochain sur Radio Pulse 90 FM entre 20h et 21h.